Me kesepastil.
Oh, me kesepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce jeudi 9 janvier. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour à l'international, notamment de l'autre côté de la Méditerranée, voir un petit peu ce qui se trame dans ce bourbier qu'est la situation du Moyen-Orient autour d'Israël et notamment de la partie turque. On va aussi s'intéresser à un accident de chasse qui a déjà eu lieu il y a quelques années. Ce jeune Morgan qui avait été abattu d'une balle devant chez lui. Les choses continuent un petit peu. Des tirs ont eu lieu encore sur la propriété, ce qui est l'occasion de s'intéresser justement sur ce que dit la loi là-dessus. Et puis voilà, une grève dans les Ouigo. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Une exposition sur la Palestine qui a été interdite par la mairie de Toulouse. Etc. C'est les nouvelles du monde et on commence tout de suite. On va donc d'abord explorer un petit peu ce qui se passe dans la Méditerranée du côté de la Turquie. Et la Turquie qui lance une opération qui s'appelle Patrie Bleue. C'est la traduction en français, c'est le nom, en tout cas le nom de code de cet exercice militaire et d'une doctrine géopolitique, même plus largement, mais en tout cas c'est le nom qui a été donné à l'exercice militaire qui vient de commencer hier dans les eaux turques. Un exercice militaire naval, donc, d'une ampleur inédite, à savoir 87 navires, 7 sous-marins, 31 avions, 17 hélicoptères et 20 000 soldats déployés donc, pour cet exercice grandeur nature. Un exercice militaire organisé donc, par la Turquie dans la mer Égée, hein, c'est la partie orientale de la Méditerranée qui sépare la Turquie de la Grèce, mais aussi en mer Noire, donc la mer Noire qui donne sur les côtes turques, mais aussi la Russie et la Géorgie. Donc cet exercice s'appelle Patrie Bleue et ça agace passablement notamment la Grèce. Et à travers la Grèce, c'est aussi l'Union Européenne qui s'exprime, puisque c'est là que se situe la frontière orientale de l'Union Européenne, donc dans les eaux entre la Grèce et la Turquie. Ce nom d'exercice militaire donc, s'appelle Mavi Vatan, ça veut dire patrie bleue, et bleue donc comme la mer. Il renvoie donc à une doctrine géopolitique et juridique qui a quelques décennies derrière elle et qui prône justement une redéfinition des zones maritimes turques, cela au détriment de la Grèce et de la Chypre, et donc vous l'aurez compris, au nom de l'Union Européenne. Voilà, donc tout cette question est de savoir où se situeront un petit peu les limites des eaux internationales et des eaux territoriales pour cette partie de l'Europe, ou si vous regardez une carte, vous verrez qu'une grande partie de la Méditerranée est longée notamment par la frontière turque, avant ensuite d'arriver sur la partie moyen-orientale, donc la Syrie, Israël, etc. Les responsables du pays voisin, donc là ce sont les journaux grecs justement qui s'en offusquent, les responsables du pays voisin, donc la Turquie, soulignent que la partie turque, si elle se concentre sur le front syrien et sur les Kurdes dans la région, veut montrer qu'elle ne néglige pas pour autant ses intérêts dans les autres régions. C'est un journal grec qui commente cet exercice. Des images vidéo sont disponibles de cet exercice. Elles ont été diffusées notamment le 6 janvier par la chaîne de télévision turque AHBR. 100 ans après le traité de Lausanne, qui a donné naissance à l'État turc laïque avec les frontières qu'on connaît aujourd'hui, le pays, à travers la voix de son président Recep Tayyip Erdogan, ambitionne de redonner vie à son empire ottoman démantelé. Entre alliances atlantiques historiques et nouvelles ambitions géopolitiques, Ankara nourrit donc le projet d'une expansion par la mer et refuse les limites des eaux territoriales qui sont réclamées par la Grèce sur la partie orientale de la Méditerranée. Les frontières, donc les nouveaux enjeux, on dirait, de cette année 2025, ça continue aussi sur le front syrien, avec notamment des combats entre les forces kurdes et pro-turques qui ont fait 37 morts. parmi lesquels 5 civils, donc 37 personnes dont 5 civils tués ce jeudi, aujourd'hui dans de nouveaux affrontements entre les forces dominées par les Kurdes et les factions soutenues par la Turquie dans le nord de la Syrie. C'est l'ONG Syrian Human Rights qui a rapporté des combats féroces dans les environs de la ville de Manbij au cours des dernières heures entre les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, et les factions de l'armée nationale. Celles-ci donc sont aidées par l'aviation turque, tandis que les FDS, forces démocratiques syriennes, sont principalement composées de Kurdes. Basé au Royaume-Uni, mais disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, l'OSDH, donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme, fait état de 37 morts, je vous le disais, selon un bilan préliminaire, principalement des combattants soutenus par la Turquie, mais aussi 6 combattants des FDS et 5 civils. Toujours selon cette ONG, au moins 322 personnes ont péri lorsque les combats ont repris entre les deux camps au mois de décembre dans cette région de Manbij, au moment donc où les rebelles prenaient le pouvoir en Syrie. La Turquie accuse donc les YPG, les unités de protection du peuple, qui est la principale composante des forces démocratiques syriennes, d'avoir des liens avec les séparatistes armés kurdes sur son sol, et plus largement des liens avec le PKK. Et donc la Turquie a menacé en début de semaine de lancer une opération militaire contre ces unités séparatistes kurdes. Mercredi, le chef des FDS, Mazloum Abdi, déclarait avoir appelé Damas à intervenir pour soutenir un cessez-le-feu suite à une rencontre avec les nouvelles autorités. La ville de Manbij, tenue des années par les forces kurdes, est tombée en décembre aux mains des groupes armés pro-turcs. Du côté de l'international, les États-Unis disent travailler très dur pour répondre aux inquiétudes légitimes de la Turquie pour sa sécurité et empêcher une offensive d'Ankara contre les combattants kurdes de Syrie. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et tout cela a été rapporté notamment dans les colonnes du Dauphiné libéré. Ce qui se joue donc en Syrie, c'est la question de l'avenir du pays, et à savoir notamment est-ce que les régions auront une autonomie partielle ou pas, est-ce qu'on ira vers une région fédérale ou pas. Et bien justement, le président turc ce 6 janvier, Recep Erdogan, avait déjà mis en garde contre toute partition de la Syrie. Il a déclaré ceci lors d'un meeting de son parti, l'AKP. « Nous ne pouvons permettre, sous aucun prétexte, que la Syrie soit divisée. » Et si nous constatons le moindre risque, nous prendrons rapidement les mesures nécessaires. Nous en avons les moyens. Cette déclaration avait donc été faite alors que des affrontements entre combattants kurdes syriens et des groupes armés affiliés à la Turquie venaient déjà de faire une centaine de tués dans les environs de Manbij. Je viens de vous en parler. Cela étant, donc, la mise en garde de M. Erdogan pourrait tout aussi bien s'adresser à Israël, qui, à la suite donc toujours de la chute du régime de Bachar el-Assad, a lancé une incursion armée dans la partie syrienne du plateau du Golan. Et pour l'instant, sur cette région, les intentions israéliennes demeurent floues, avec des déclarations assez contradictoires. D'ailleurs, c'est ce que, par exemple, le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu, Gideon Saar, expliquait que cette incursion était juste une mesure limitée et temporaire prise pour des raisons de sécurité. Sauf que, de son côté, le premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou, lui avait promis que le Golan ferait partie de l'État d'Israël pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, cette incursion militaire donc, ne va pas améliorer les relations entre Israël et la Turquie, ce qui pourrait même, pour certains, laisser craindre un conflit direct. Les relations sont à couteau tiré, donc depuis que Tayyip Erdogan a menacé d'intervenir contre Tsahal en juillet dernier. C'était au cours d'une réunion toujours de son parti. En clair, il suggérait l'envoi de mercenaires qu'il aurait recrutés parmi les groupes rebelles syriens alignés sur les intérêts turcs. Visiblement, donc, les propos du président turc ont été pris très au sérieux par une commission, la commission de défense israélienne qui s'appelle la commission Nagel. C'est une commission dans laquelle se trouvent 12 experts des questions militaires et sécuritaires pour l'État d'Israël. Et dans le dernier rapport, justement, sur le budget de la défense et de la stratégie de sécurité pour Israël qui a été remis ce 6 janvier, avec un résumé qu'on peut trouver dans les colonnes du Jerusalem Post, cette commission Nagel donc a estimé qu'Israël devait se préparer à une confrontation directe avec la Turquie. Dans ce rapport, on lit « L'ambition de la Turquie de restaurer l'influence qu'elle avait à l'époque ottomane » pourrait conduire à des tensions accrues avec Israël, ce qui pourrait dégénérer en conflit. En outre, donc, le fait, je vous ai dit qu'il y ait des factions syriennes alignées sur Ankara, le fait qu'il y ait des factions syriennes alignées sur Ankara est de plus une nature à créer une menace nouvelle et puissante pour la sécurité d'Israël. Ça, ce sont toujours des extraits de ce rapport. Une menace qui pourrait même être encore plus dangereuse que celle incarnée par l'Iran, Dixit dont toujours ses experts de défense israéliens. Et donc, suite à ce rapport, la commission Nagel recommande d'augmenter le budget de la défense de 15 milliards de shekels, ça fait environ 4 milliards d'euros par an, pour les 5 prochaines années, cela afin de s'assurer que les forces israéliennes soient équipées pour faire face aux défis posés par la Turquie et à d'autres menaces régionales.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
On passe à plusieurs brèves qui font un petit peu écho à cette actualité internationale, mais on revient en région, à Toulouse, où la mairie a refusé d'accueillir une exposition consacrée à Gaza. Cette exposition est organisée par Médecins Sans Frontières, MSF, et la raison évoquée par la mairie, c'est un risque évident de trouble à l'ordre public. L'ONG Médecins Sans Frontières le dénonce dans une lettre ouverte au maire et qui a été reprise dans différents médias. La mairie de Toulouse avait été sollicitée en décembre, il y a un mois, donc en décembre, par Médecins Sans Frontières pour accueillir une exposition qui s'appelle « We did what we could », donc on a fait ce qu'on a pu. Les dates prévues étaient du 6 au 26 janvier dans l'espace Diversité Laïcité. C'est un lieu culturel qui est géré par la municipalité en centre-ville et l'espace Diversité, c'est près de l'église Saint-Aubin. La municipalité, donc, qui est dirigé à Toulouse par Jean-Luc Moudinc, a, dans son communiqué de presse envoyé à Ici Occitanie, estimé qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable à cette proposition d'expo, car la tenue pose un risque évident de trouble à l'ordre public, et ils évoquent les énormes tensions sur le territoire en lien avec l'attaque terroriste du 7 octobre, menée par le Hamas contre la population israélienne, la guerre à Gaza et plus largement au Proche-Orient. Voilà, Toulouse met également en avant un contexte local qui demeure tendu, notamment par l'interdiction depuis le 7 octobre de plusieurs manifestations liées au conflit israélo-palestinien par la préfecture et dont la radicalité donc des manifestations posait un problème de trouble à l'ordre public. Ils évoquent encore le ciblage récent de plusieurs commerces toulousains au motif de leur prétendu soutien à Israël sur le seul motif que le propriétaire en était juif. Dans une lettre ouverte à l'élu de la municipalité, la présidente de MSF, la présidente nationale de Médecins Sans Frontières, donc Isabelle Defourny, s'est dit consternée par ce refus d'accueillir une exposition qui, précise-t-elle, avait été présentée à Bayeux dans le Calvados lors du prix des correspondants de guerre en octobre 2024 sans qu'aucun trouble n'ait été rapporté. Selon l'ONG, la mairie fait l'amalgame entre des événements générés localement ou nationalement par le conflit et une exposition présentée par une association humanitaire engagée sur le terrain et destinée à rendre compte du sort des Gazaouis. MSF juge que cela procède d'une logique de décrédibilisation et de censure de celles et ceux qui tentent d'alerter sur les atrocités en cours à Gaza et de négation de la souffrance de la population palestinienne. Voilà, Médecins Sans Frontières indique donc poursuivre ses recherches d'un lieu d'exposition à Toulouse ou en région pour une date ultérieure.
Ah, les grands bols, tout ça, mais c'était écœurant, la fin.
Burn, Hollywood Burn, ça pourrait être le titre de bien des chroniques, puisque ça y est, on y est, les flammes menacent le centre d'Hollywood, donc en Californie, où les incendies continuent de faire des ravages. Le bilan qui a été donné il y a quelques heures a été passé à 5 morts. Les autorités ont ordonné l'évacuation donc, du centre de Hollywood. En effet, un nouveau feu s'est déclaré hier soir dans des collines à quelques centaines de mètres de ce très célèbre Hollywood Boulevard. La Californie est balayée en ce moment par des fortes rafales de vent qui favorisent la progression des flammes. Menace immédiate pour la vie, il s'agit d'un ordre légal de partir. Maintenant, la zone est légalement interdite d'accès au public. Ça, c'était les panneaux et les déclarations des pompiers de Los Angeles qu'ils ont placardés partout et criés dans leur mégaphone. Cela avec une carte donc montrant les sections de ce célèbre quartier du cinéma. Le bilan des incendies qui font rage depuis ce mardi à Los Angeles est monté, donc je vous le disais, à au moins 5 morts. Il pourrait encore s'aggraver, ce qu'a annoncé hier le shérif du comté. Environ 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 100 000 habitants de la mégapole américaine forcés de fuir face aux flammes. Los Angeles, pour ce qui est des conditions, est en ce moment balayé par des vents de la force d'un ouragan. Cela combiné à des conditions de sécheresse extrême. Et malgré l'hiver, c'était la maire Karen Bass qui l'a expliqué lors d'un point presse hier soir. Les rafales soufflaient en effet jusqu'à 160 km/h hier et elles peuvent ainsi transporter parfois des braises sur des kilomètres. Il pourrait s'agir du début d'hiver le plus sec jamais enregistré, donc des conditions très favorables à une importante combustion. Il y a eu 2 années de beaucoup de pluie là-bas en Californie, ce qui a permis à la végétation de se reformer de manière très dense. Et donc là maintenant, avec la sécheresse hivernale, et ben, tout part en fumée. Un premier incendie s'était déclaré mardi matin dans les collines du quartier UP de Pacific Palisades, qui abrite des célébrités et de nombreuses villas à plusieurs millions de dollars. Depuis, les foyers se sont multipliés et explosent souvent très rapidement en l'espace de quelques minutes. Mercredi soir, donc hier, en plus de l'incendie qui avoisinait le célèbre boulevard de Hollywood, un autre feu s'est déclaré en soirée dans le quartier voisin de Studio City. Les dégâts sont gigantesques, plus de 100 000 habitants, je vous le disais, forcés de fuir leur habitation, en proie aux flammes dans la région, 1500 bâtiments détruits, comptabilisés jusque-là. Et comme le rapportait CNN hier soir, l'incendie de Pacific Palisades, donc celui qui avait démarré le mardi, sur la côte de Los Angeles, avait ravagé à peu près 64 km². Une nouvelle inquiétude était d'ailleurs grandissante ce matin avec une petite mise à jour, c'est la ville de Pasadena qui a, elle, émis une alerte sur l'eau potable, puisque l'eau potable pourrait, suite à tous ces résidus d'incendie, désormais être impropre à la consommation. Les habitants de la ville ont ainsi été invités à ne pas consommer l'eau du robinet et à n'utiliser que si elle était au préalable filtrée ou portée à ébullition pour éviter une éventuelle contamination. Et maintenant, on va parler un petit peu de chasser, de droits de propriété privée, les limites, tout ça. En effet, un article dans Reporter vient d'être publié et il nous apprend que 4 ans donc, après la mort de Morgan Keane, ce jeune homme qui avait été tué par un chasseur dans son jardin, eh bien, un sanglier vient d'être abattu sur les mêmes lieux. Sa propriété est pourtant interdite à la chasse et ses proches dénoncent le laxisme de l'État envers les chasseurs. On va s'intéresser un petit peu à ce dossier parce que ça peut, je pense, éclairer pas mal de situations même au niveau local. Furieux, indigné et ébahi face à un tel manque de décence, ce sont les mots en tout cas qui ont été donnés au téléphone par reporter par Ralph, qui est un vieil ami de Morgan Keane, donc qui avait été tué par un chasseur à la fin de l'année 2020, alors qu'il coupait du bois près de sa maison. On était à Calvignac dans le Lot. Et donc ce dimanche 29 décembre, un chasseur a pénétré dans la propriété, qui est pourtant interdite à la chasse depuis l'accident, pour y tuer un sanglier. Il n'y avait ce jour-là que Rowan, donc le petit frère de Morgan qui est décédé, à la maison ce moment-là, raconte leur ami. Il était sur la terrasse de sa maison lorsqu'il a entendu vers 14h un grand fracas remonter vers la bambouseraie. Il s'est douté que c'était un sanglier. Il a ensuite entendu un chien de chasse emprunter le même chemin, puis un homme suivi d'un coup de feu. Le jeune homme a alors attendu quelques minutes avant de sortir à la rencontre des chasseurs, un peu traumatisé, on imagine, et à ce moment-là, quand ils l'ont vu, l'auteur du tir s'est enfui en courant, en laissant derrière lui le cadavre de l'animal sur place. Plusieurs témoignages corroborent d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors ensuite, le jeune frère a appelé la mère de son ami, Ralph, et elle s'est rendue sur place en compagnie de son fils. Ils ont ensuite appelé les gendarmes, qui ont appelé des hommes sur place pour réaliser les premières constatations. Le directeur de battue a été auditionné, a expliqué le président de la fédération de chasse, Jean-François Caux. Le parquet de Cahors a été saisi de ces faits et une enquête immédiatement ouverte. Des directives d'enquête ont été données, mais toutefois, nous n'avons pas encore eu le retour de l'ensemble des investigations. C'est ce qu'expliquait donc aux journalistes, pour l'instant, la vice-procureure du tribunal judiciaire de Cahors. La question, c'est, ce tir était-il légal? Est-il légal de venir tuer un sanglier sur cette propriété où la chasse est interdite? Suite à la mort de Morgan, la propriété avait en effet été classée un refuge ASPAS, c'est-à-dire l'Association pour la protection des animaux sauvages. C'est une association à laquelle on adhère avec sa propriété et ça aide les propriétaires à interdire la chasse sur leur terre. Donc théoriquement, les chasseurs ne sont pas censés y entrer, mais en chasse, il existe un droit de suite qui autorise notamment les chasseurs à achever un animal qui serait mortellement blessé et ce, où qu'il se trouve. C'est ce qui s'est passé selon donc, le président de la Fédération de chasse ce 29 décembre. Il explique que le sanglier avait déjà été tiré et blessé aux pattes arrière qu'il avait réussi à se traîner sur ses pattes avant et qu'il est venu finir sa course dans la propriété. Là, les chiens sont montés aux fermes. C'est ce qu'on dit, la chasse aux fermes, c'est une chasse au cours de laquelle les chiens sont lancés à la poursuite d'un animal et l'encerclent. Puis les chasseurs ont constaté sur leur GPS et à l'oreille que les chiens ne bougeaient plus et que donc l'animal était immobilisé et ils sont allés pour l'achever. Mais cette explication ne convainc pas l'avocat du collectif Un jour un chasseur, il s'appelle Julien Roalas, et ce collectif a été fondé par 4 amis justement de Jeanne Morgan après sa mort. En effet, le droit de suite, explique-t-il, ne s'applique que si l'animal est mortellement blessé, auquel cas le fait de l'achever n'est pas considéré comme un acte de chasse. S'il est seulement blessé, le tuer dans une zone non chassable en fait donc une infraction. Vous voyez que la limite est très mince, et puis qui est là pour aller demander à l'animal comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il va mourir ou pas, et puis est-ce qu'il vaut mieux qu'il continue sa vie blessé. Tout se joue donc sur cette subtilité assez difficile à prouver et qui joue donc plutôt en faveur, pour l'instant, des fédérations de chasse dans les cas ça s'est présenté. Richard Holding, qui est un membre de cette association LASPAS, donc l'association pour la protection des animaux sauvages, explique que c'est effectivement un cas récurrent et que justement leur association assiste les propriétaires des refuges dans leurs litiges avec les sociétés de chasse. C'est très compliqué, dit-il, à prouver. C'est pourquoi il recommande aux personnes qu'ils accompagnent de filmer ou de prendre des photos s'ils soupçonnent une infraction, sinon c'est parole contre parole. Un autre point d'interrogation, les chasseurs auraient-ils dû prévenir la famille Keen qu'ils allaient achever un sanglier sur leur propriété? Eh bien, d'après l'avocat, oui, même en cas de suite, dit-il. Sinon, on est dans le cas d'une violation de domicile passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et d'ailleurs, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a confirmé que pour exercer ce droit de suite, donc la possibilité d'aller tuer un animal blessé, enfin en danger, qui va mourir sur un autre terrain, un chasseur doit, dans tous les cas, solliciter l'autorisation du propriétaire du terrain, ce qui n'a pas été fait ce cas-ci. D'ailleurs, le président de la Fédération de chasse reconnaît bien une erreur liée au fait que le jeune frère ne séjournait que occasionnellement dans sa maison du Lot, donc à Calvignac. Face à ces agissements, donc, l'ASPAS dit étudier la possibilité de porter plainte et de demander la dissolution de la société de chasse qui a organisé cette battue. Au-delà du caractère légal de ce tir de sanglier, se pose la question de la légitimité. En effet, la mort du jeune Morgan, avec qui il avait à peine 25 ans, qui a été confondu par un chasseur inexpérimenté, puis abattu d'une balle au thorax juste à côté de chez lui, tout cela avait provoqué une onde de choc national. La pétition qui avait été lancée par ce collectif Un jour un chasseur pour interdire la chasse les dimanches et les mercredis, mais aussi pour demander une formation plus stricte des chasseurs et un contrôle accru sur l'utilisation des armes à feu, cette pétition donc avait recueilli plus de 120 000 signatures. Bien visiblement, cette mobilisation nationale n'a pas suffi à refroidir les chasseurs du secteur de Calvignac, hein, c'est ce que dénonce en tout cas Mila, une amie de Morgane et qui est cofondatrice de ce collectif. Elle dit « On sait qu'ils continuent à chasser aux abords de la maison quasiment tous les week-ends. Et là, ils se permettent de s'introduire dans la propriété et d'y tuer un sanglier à 36 mètres de la porte d'entrée. C'est un manque de respect total pour les proches. On ne comprend pas qu'ils puissent continuer à venir tuer là, dans ce jardin, sans y voir un problème éthique et moral. » Les soutiens de la famille Keen ne ménagent pas non plus l'État, hein, qui se montre d'une indulgence très coupable à l'égard des chasseurs. Le collectif Un jour un chasseur avait pourtant quand même été invité par Bérangère Abat, qui était alors secrétaire d'État à la biodiversité, pour qu'ils présentent leurs propositions pour une pratique de la chasse plus sécuritaire. Sans résultat, visiblement, puisque le gouvernement a au contraire depuis pris de nouvelles mesures pro-chasse, par exemple la vente de munitions chez les buralistes ou l'extension de la période de chasse des sangliers à l'année entière. On termine avec ce chiffre, 60% des personnes non chasseuses tuées par des chasseurs ces 15 dernières années l'ont été au sein même de leur propriété. Le 1er février 2024, l'ASPAS, donc l'association... je vais vous retrouver le nom quand même parce qu'elle est intéressante. Voilà. L'Association pour la protection des animaux sauvages et le collectif Un jour un chasseur ont d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris pour un recours en carence fautif de l'État. Leur objectif, c'est contraindre l'État à adopter des mesures nationales propres à assurer la sécurité des citoyens vis-à-vis de la chasse. Et on termine avant le week-end avec des petites nouvelles du trafic ferroviaire, puisque des grèves sont annoncées sur les Ouigo, des défaillances, des retards, des cafards. Ce sont les raisons mises en avant par les syndicats pour dénoncer donc le piteux état de leur ligne Ouigo. C'est la CGT, l'UNSA, Ferroviaire et Sudrail qui ont lancé un appel à la grève ce week-end pour protester contre la dégradation des rames Ouigo de la SNCF et, de manière plus générale, les limites de ce modèle de low cost qui a été lancé en 2013. Ça fait plus de deux ans que l'état de nos rames Ouigo se dégrade sensiblement en aggravant au passage nos conditions de travail, donc animaux nuisibles, dysfonctionnement de sécurité, anomalie confort. Nous ne devons plus subir les défaillances de matériel, les retards, les cafards et les punaises, écrivent ces trois syndicats dans un communiqué de presse qui a été publié le 3 janvier dernier. Pour le secrétaire fédéral de Sudrail, qui s'appelle Julien Troca, comme pour les autres co-signataires de cet appel à grève, c'est tout simplement le modèle économique, donc du low cost mis en avant par Ouigo, qui a atteint ses limites. Ouigo repose sur un modèle d'exploitation avec des trains très capacitaires, donc dans lesquels on peut mettre beaucoup de gens, dans lesquels on a par exemple viré le bar, me dit-il. C'est pas anodin d'enlever le bar, puisque si les voyageurs veulent dîner ou goûter, ils sont obligés de prendre leur nourriture. Ça prend beaucoup plus de temps de nettoyer la rame, et on se retrouve avec des problèmes d'insectes ou de nuisibles. Ce n'est pas juste parce que les salariés font mal leur travail, expliquait-il au journal 20 minutes. Mais il n'y a pas que ces problèmes d'insalubrité. Les cheminots craignent surtout de plus en plus pour leur sécurité, plus globalement aussi du coup pour celle des voyageurs. Ces trois derniers mois, disent-ils, les TGV Ouigo ont accumulé plus d'incidents, d'allègements et de suppressions de trains que sur les deux dernières années, tous axes confondus. Là aussi, pour ce syndicaliste, le modèle économique arrive au bout. Les rames ont des gros problèmes de maintenance, elles sont tirées à la rupture toute la journée et ne rentrent en maintenance que sur des créneaux plus courts et des créneaux de nuit. Il n'y a pas les mêmes possibilités donc de maintenance le jour ou la nuit, et cela engendre en plus des enjeux de santé pour les cheminots et cheminotes qui doivent travailler donc de nuit. Pour dénoncer ces conditions de voyage et de travail, comme pour les contrôleurs qui doivent de plus en plus faire face à la colère des voyageurs, les trois syndicats débuteront donc leur mobilisation ce vendredi par un rassemblement demain de 10h à 11h au siège Ouigo de la gare de Lyon, pour interpeller ensemble la direction, avant ensuite de débloquer pour le week-end. Chers amis, il est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, wow. Ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.